Bonjour à toutes et à tous. Le numéro 28 d'Atout Aveyron, bimestriel gratuit. C'est le menu du mag aujourd'hui sur CFM Rhodes, évidemment. Numéro de mois de novembre et décembre 2021, avec encore une fois de très nombreuses personnalités, tout le département à découvrir dans ce numéro. Bonjour Solange.
Bonjour David.
Solange, directrice de la publication avec nous, comme tous les mois ou tous les deux mois à peu près. Oui, on rappelle Atout Aveyron ex Éco Aveyron.
Oui.
Le principe en particulier, c'est de nous faire découvrir des personnalités qui vivent, qui travaillent en Aveyron.
Oui, David, c'est bien ça.
Environ combien de portraits, de personnes à découvrir là?
Toujours 25.
Bah, parmi ces 25, il y en a 1, 2, 3, 4 qui sont avec nous aujourd'hui dans les studios. On va faire.
Et pas des moindres.
Et pas des moindres. Bah, je dis pas ça parce qu'il y a les autres qui écoutent aussi en même temps. Hein. Très bien. On va commencer, honneur aux dames, par saluer Chloé Gonzalez. Bonjour Chloé.
Bonjour David.
Chloé, alors tiens, je signale tout de suite que vous êtes à retrouver dans Atout Aveyron à la page 44 et 45.
Oui.
Page 44, belle photo, format américain, enfin je sais pas comment on dit, pas que la tête, le corps, et avec une tenue blanche, mais vous n'êtes pas infirmière.
Non, mais normalement en cuisine, on a une tenue blanche.
D'accord, donc vous c'est en cuisine, ouais. Puisque vous faites de la cuisine.
De la pâtisserie.
Et plus particulièrement, parce que je fais le con là, mais j'ai quand même lu le papier qui vous est consacré, la page d'à côté, page 45. Mais vous, c'est plus spécialisé que la pâtisserie. La pâtisserie, c'est votre domaine de départ, on va en discuter. Mais vous faites du biscuit.
Oui, c'est ça, oui. Biscuit sec, du coup sucré et salé.
D'accord. C'est quoi la différence entre, qu'est-ce qui est pâtisserie qui n'est pas biscuit et qu'est-ce qui est biscuit qui n'est pas pâtisserie? Si vous arrivez à me suivre.
Oui. Alors, pâtisserie, ça comprend donc des pâtisseries fraîches, en fait. Quand on dit fraîche, hein, c'est tout ce qui est à base de crème. Normalement, en fait, on appelle pâtisserie de conservation et pâtisserie fraîche. D'accord. Donc, la biscuiterie, on est sur une pâtisserie de conservation, en fait, qu'on n'a pas besoin de garder au frais pour être conservée. Et une pâtisserie fraîche, obligatoirement, il faut qu'elle soit conservée au frais.
Donc, vos biscuits, vous vendez ça dans des paquets de biscuits?
Dans des sachets, oui, en craft. Et là, je suis en train de revoir l'emballage pour faire un emballage en carton, du coup, pour que ce soit plus facile, que je gagne un petit peu de temps sur la mise en paquet, en fait.
D'accord, ouais, parce que vous faites tout vous-même?
Oui, avec mes deux mains, ouais.
À la fois les biscuits, donc...
C'est ça, de la production à l'emballage, en passant par la revente, le démarchage. Donc, je fais tout, toute seule. Ouais, et ça fait pas mal de taf.
J'imagine. Comment ça s'appelle votre marque?
Le Temps des Papilles.
Le Temps des Papilles?
Oui.
C'est à retrouver quand on fait de la pâtisserie, de la cuisine, de façon générale. Vous êtes Instagram, vous, déjà?
Oui, Instagram, ouais. Beaucoup. Ouais, plutôt Instagram même que Facebook. J'essaie de me remettre un peu à Facebook. Mais moi, ouais, je suis plutôt Instagram, ouais.
Vous êtes installé où?
À Nocelles.
D'accord, donc c'est aussi là que vous fabriquez les biscuits?
Oui, c'est ça.
Pour fabriquer des biscuits, il faut quoi? Il faut un four?
Oui, un four. Alors, en gros, principalement, hein, un four, un batteur. C'est vraiment ce qui me sert le plus.
Vous arrivez à fabriquer beaucoup de biscuits?
Oui, pas mal de biscuits, ouais.
Ouais.
Ouais, ouais. Là, par exemple, sur le mois de novembre, j'étais à 1500 sachets de produits et de vendus.
Alors, ces biscuits, c'est vrai que vous nous parlez de biscuits secs, donc tout de suite, on a l'image d'un biscuit sec qu'on a mangé une fois dans notre vie. Soit un bon souvenir, soit un mauvais d'ailleurs. Ah, mais on voit tout de suite le biscuit sec de quoi il s'agit. Mais vous, c'est le biscuit sec style les machins bretons, du sucre, de la pâte et un côté quand on le mange, ou il y a autre chose?
Alors déjà, moi, j'ai décidé, en fait, je fais, j'ai 6 recettes, donc 4 sucrées et 2 salées.
Ouais.
Et dans les 4 sucrées, par exemple, moi, j'ai décidé à chaque fois de faire une recette différente par biscuit.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à chaque fois, en gros, il y a une texture différente pour chaque biscuit. J'ai pas décidé de faire un biscuit, en gros, une recette que j'ai déclinée avec des goûts ou des parfums différents. C'est qu'à chaque fois, c'est vraiment une recette particulière. Donc, pour donner un exemple, le sablé viennois, c'est un sablé qui est poché à la main, à la douille. On a une texture en bouche qui est à la fois un peu croustillante et fondante. Le sablé à l'orange, on est sur quelque chose d'un peu plus, craquant, un peu plus croustillant.
Ouais.
Le cookies, on a un côté croustillant et moelleux. À chaque fois, il y a vraiment une texture différente. Et c'est vrai que j'avais pas envie, justement, du côté biscuit. Vous aviez dit que vous aviez des mauvais souvenirs, donc qu'avec les miens, vous aurez des bons souvenirs.
Oui.
C'est justement, je voulais éviter le biscuit un peu trop sec et garder quelque chose, un bon souvenir. Quoi.
Ouais. Alors, vous m'avez dit donc plusieurs recettes. Donc, notamment du côté de la texture, là, vous venez d'expliquer, mais j'ai cru comprendre aussi, puisque vous avez parlé d'orange et de cookies, c'est qu'il y a quand même des parfums différents.
Oui.
Donc, il y a orange, chocolat.
Alors, il y a orange, chocolat, citron, justement, le biscuit dont vous parliez, breton, voilà.
Chloé, donc le temps des papilles, hein, c'est le nom de votre marque et de ces biscuits que vous produisez vous-même personnellement dans votre grande cuisine. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans le biscuit après avoir exercé dans des grands restaurants, à Véronnet notamment, à faire de la pâtisserie comme on voit à la télé, là du biscuit?
C'était un changement de vie. J'ai tenu avec mon compagnon un restaurant pendant 6 ans à Nocelles, l'Aromatique pour ne pas le citer, qui était quand même assez bien réputé localement, voire plus, parce qu'en plus j'étais passée dans une émission de télé, Déraciner des ailes.
Ah ça marche toujours.
Donc ça a plutôt bien marché, c'était assez impressionnant. Mmh. Donc c'est vrai que localement, on était bien réputé. On a décidé d'arrêter, parce que voilà, je suis devenue maman et que du coup j'avais... Ouais.
Oui, avoir un restaurant, c'est... Alors, faire des biscuits, c'est des contraintes, mais avoir un resto, c'est un enfer.
Oh, c'est pas un enfer, j'irai pas jusque-là. Non, c'est pas un enfer, parce qu'on l'a toujours fait avec beaucoup de plaisir et vraiment de passion. Simplement, en fait, avoir des enfants, ça change vraiment la vie. Enfin, je donne un exemple, c'est que moi, quand j'ai choisi la restauration, mon père, il m'a de suite dit « Oh là là, attention, Chloé, tu vas travailler à l'envers de tout le monde, tu travailleras quand les gens sont en vacances. » Enfin. Mais bon, j'étais déterminée. Hein. Moi, en troisième, je savais déjà que je voulais faire de la cuisine. Et après, j'ai continué vraiment en pâtisserie. Mmh. Voilà, je m'en fichais, je savais ce que je voulais faire. Et on l'a toujours fait. On a toujours été donc décalé de tout le monde. On s'en fichait. Quand on a des enfants, même si on le sait, ça change complètement la donne. Donc du coup, on a décidé, on avait déjà en fait une date butoir. On avait décidé d'arrêter le restaurant en février 2021. Et le Covid est passé par là. Et on s'est dit, bon, ça sert à rien d'attendre jusqu'en février finalement, parce que nous, on s'attendait à ce qu'on ne se sorte pas du Covid comme ça. Mmh. On s'attendait à ce que ça dure. Donc on s'est dit, voilà, on va arrêter. J'ai passé une petite période un peu de transition, on va dire. Et puis, j'avais envie aussi de faire un peu une pause sur la pâtisserie. Et en fait, elle m'a rappelé assez rapidement, ça me manquait vraiment énormément. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui continue de me passionner, puisque c'est la pâtisserie, que j'arrive à faire quelque chose qui me passionne, et en même temps que je puisse avoir une vie de famille un peu comme tout le monde, quoi, à peu près normal. Et du coup, la biscuiterie, ça collait avec tout ça, et il y a plein de choses à faire en biscuiterie, en fait, je me rends compte. Et j'avais envie aussi un peu, c'est ce que je dis, c'était de dépoussiérer un peu la biscuiterie, parce que je trouve qu'on a une image un peu vieillotte de la biscuiterie tant en termes de packaging et que de recettes, justement. Et il y a plein de choses, en fait. Comme je disais, en fait, en biscuiterie, il y a plein de textures différentes, de goûts différents. On n'est pas juste voilà sur un biscuit sec. Enfin, il y a plein de choses à faire. Hein, donc, voilà, c'est hyper intéressant.
Et c'est ce que vous avez commencé à faire depuis quelques mois, donc, avec le temps des papilles. Je vais revenir vers vous, hein. Chloé, mais vous aimez le chocolat ?
J'adore le chocolat.
Bon, je vous présente Cédric D'Acosta Faro, qui est à côté de vous, d'ailleurs. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Donc, ouais, Cédric, vous, votre truc, c'est le chocolat.
C'est fabriquer du chocolat.
Voilà. C'est pas déjà en manger uniquement, parce qu'à la limite, on vous aurait peut-être pas invité pour ça. Bon, c'est pas vendre du chocolat en faisant quelques recettes, parce que ça aurait pu avoir un intérêt, mais ça va au-delà. Vous fabriquez carrément le chocolat.
Ouais, j'étais pas forcément intéressé par la pâtisserie. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la chimie qu'il y a derrière la fabrication du chocolat, en partant depuis la fève et en étant au plus proche de ce produit agricole. Il ne faut pas oublier que le chocolat reste un produit agricole, donc soumis à saisonnalité. Un peu comme pour le vin ou pour des fruits, on va avoir aussi des effets terroirs, on va avoir différents génomes derrière qui vont apporter... sur le vin, on va parler de cépage, on peut faire quasi la même chose avec le cacao. Et du coup, il y a une vraie variété de saveurs et d'arômes à découvrir via ce produit-là. Et il n'y a aucun moyen de faire, en fait, normalement, deux fois la même chose. Il y a trop de paramètres qui entrent en jeu. Et c'est justement ce défi qui m'a plu. Je ne cherche pas à faire toujours le même produit, au contraire. C'est vraiment respecter. Est-ce que j'ai eu une saison, une récolte d'été ou une récolte d'hiver? Est-ce que ça vient du Nicaragua, de Sao Tomé, d'Inde? Respecter un petit peu tout cela et le faire de façon éthique, responsable et en toute transparence.
Ils font du cacao en Inde?
Ils font du cacao et du très très bon cacao.
Ah bon, vous m'apprenez quelque chose. Vous êtes installé du côté de Castelnau de Mandaille, Cédric?
Ouais, entre Castelnau et Saint-Chély.
Votre marque, d'ailleurs, on l'a pas dit, c'est Lucifève d'Aubrac.
Lucifève d'Aubrac. Donc ça, ça date de cette semaine. C'est vrai que j'apparais dans le magazine sous le nom Le Jardin Chocolat, mais pour différentes raisons légales, j'ai été amené à changer. Et j'ai réorienté ce nom-là à la fois pour rendre hommage à la région dont je suis tombé amoureux, véritablement, il y a 15 ans. On a pu s'installer il y a un an avec la famille. Et pour aussi plusieurs raisons, d'autres passions qui me tiennent à cœur. Lucifève, évidemment, va faire penser à Lucifer, mais il faut le prendre au sens premier du terme.
Lumière.
Chez les latins, Lucifer, c'était la planète Vénus. Ah. Étant passionné d'astronomie, c'est pour moi une évidence.
Parce que Vénus, j'aurais pu vous dire, ouais, passionné d'astronomie, mon œil, Cédric. Vénus, moi j'en connais d'autres, c'est pas les planètes.
En effet.
Bon, bref.
Le sens deuxième, c'est le porteur de lumière, donc une traduction littérale, qui était le rôle donc de ce personnage-là dans la mythologie, avant d'être le personnage que l'on connaît aujourd'hui.
Donc vous êtes installé là au port de l'Aubrac, Castelnau-de-Mandaille. Vous aussi, c'est pas une cuisine, on n'appelle pas ça comme ça, un laboratoire,
un labo de fabrication. Donc je suis en train de le faire rénover intégralement pour pouvoir accueillir au printemps prochain des ateliers et puis moi surtout pouvoir travailler dans des conditions optimum.
Quand vous nous dites que vous fabriquez le chocolat, on a parlé de fèves, de cacao. Ça veut dire que vous recevez les graines, des fèves.
Les fèves.
Comme ça, les fèves, l'état quasiment brut, tombé de l'arbre.
Alors, il y a quand même une transformation en fait par le planteur, qui est d'abord la fermentation et ensuite le séchage. Ce sont deux étapes obligatoires pour moi. Je précise pour moi parce qu'en fait, on peut malheureusement avoir des fèves qui n'ont pas été fermentées. Et donc, du coup, on aura une piètre qualité au final. La fermentation, c'est un exhausteur de goût. C'est là où on va vraiment avoir tous les précurseurs d'arômes, de cacao, de fruits, de floral, d'épices et bien d'autres. Ça, c'est pour ceux que l'on arrive à reconnaître le plus facilement. Le séchage va avoir pour but de conserver la matière première pendant longtemps. Donc, une fève peut se conserver 2-3 ans aisément. Et donc, moi, je travaille uniquement avec des sourceurs. Je vais pas dire des importateurs. En fait, ils font un vrai travail d'accompagnement au quotidien avec les planteurs, avec les coopératives, pour tout ce travail de post-récolte. Donc c'est quand même très technique. Et ensuite, toute la partie d'export de la marchandise du pays d'origine. Donc moi, je travaille essentiellement avec des origines sud-américaines. Nicaragua, Colombie, Guatemala,
ça vient de là, à la base,
Venezuela. Ça vient de par là-bas. Je travaille aussi des cacaos africains. Donc là, j'en ai un de Sao Tomé et je suis en train d'évaluer un qui vient du Congo. Et ensuite, j'ai donc des fèves qui viennent d'Inde, de la pointe sud-ouest au Kerala, qui sont très particulières, très épicées.
Mais quand vous recevez des sacs de fèves de je ne sais combien de kilos?
Entre 30 et 60.
Voilà, beau sac. C'est quoi votre boulot donc, de fabrication de chocolat, à part le concassé et je ne sais quoi?
Donc la première étape, évidemment, ça va être de goûter les fèves, de s'assurer du profil aromatique que l'on a derrière. Une fois qu'on a validé cette qualité-là, on a déjà une idée de comment on va pouvoir travailler la fève pour en faire un chocolat, ce qu'on veut en faire ressortir, est-ce que c'est plutôt un côté fruité, un côté épicé, un côté chocolaté ou autre. Il y a une étape de tri, obligatoirement. On peut se retrouver avec des fèves trop plates, amalgamées, des fèves qui ont été brisées. Tout ça, c'est recalé.
C'est recalé, vous mettez pas tout à la poubelle.
Alors non, moi je suis en zéro déchet, donc elles sont réutilisées par d'autres artisans locaux.
D'accord.
Pour différentes créations, donc ça va dans de la coutellerie.
Les maracas Non mais c'est une idée.
Non, mais ça va dans...
Les maracas à Véronèse, à base de cacao. Non mais d'accord.
Ouais. Ça va dans la maroquinerie, ça va dans la coutellerie.
Et la maroquinerie.
Oui, la maroquinerie d'art. C'est une personne qui a réussi à faire des sacs avec les coques et les fèves.
Et alors vous,
donc, une fois que ça s'est fait, il va y avoir la torréfaction, il va y avoir le concassage, le vannage, donc c'est l'opération de séparer la coque de la fève. Ensuite, on passe dans un gros moulin, une grosse meule en pierre, pendant 24, 48 heures, ça dépend un petit peu de ce qu'on recherche. Je vais laisser reposer le chocolat pendant 4 à 6 semaines minimum. Ça, c'est pour enlever la partie amertume et astringence un petit peu. Et puis, comme pour le vin, il faut que les arômes se développent. Et après, il y a toute la partie de tempérage et de moulage.
Parce que nous, ce chocolat que vous produisez avec amour, on a bien compris, avec soin.
Avec passion.
Voilà, on a bien compris, avec passion,
passion
tout à fait.
Voilà.
Bon, nous, très bien. Mais nous, on veut le goûter et le manger. ce chocolat, donc nous, on se le trouve quoi, en plaque style classique, les plaques de chocolat, les plaquettes de chocolat, quoi? Ou en bonbons de chocolat?
Non, je ne fais pas de bonbons.
Non,
en fait, je me focalise uniquement sur la fabrication du chocolat. Donc derrière, il est disponible en tablette, mais aussi en pastille. Pastilles pour soit déguster comme ça, soit pour aller en pâtisserie.
Et alors, vous faites quoi comme chocolat? Vous faites des trucs un peu exotiques? Ou c'est déjà du chocolat, c'est déjà bien fait? C'est déjà du boulot?
Déjà, je ne fais que du chocolat noir. Je ne fais pas de chocolat lait ou de chocolat blanc. Ça m'obligerait en fait à avoir une deuxième ligne ou une troisième ligne de production. Il n'y a pas d'inclusion aucunement. Donc en fait, si vous êtes allergique au coq, au lactose ou autre, il n'y a pas de souci avec, avec mes produits. Soit ils sont nature et déjà parfaitement aromatisés naturellement.
Ouais.
Soit je les associe aux plantes d'Aubrac, cueillies de saison et intégrées d'une manière ou d'une autre. Donc soit par, par décoction, par infusion ou directement ajoutées en l'état au chocolat, c'est filtré évidemment ensuite, et je le propose sous forme de série limitée. Donc récemment, j'ai pu faire avec la baie de Genièvre, là je suis en train de faire avec le cynorhodon.
C'est un animal les... ça, le cynorhodon, non?
Non, c'est ce qu'on appelle communément le gratte-cul.
Ah d'accord, pardon.
Désolé.
Non mais, ouais, pas mal. Non, mais c'est pas plus mal d'ailleurs, hein, à mon avis. Et au total, vous avez combien de produits?
J'ai 8 origines différentes, et après, lorsque je dois associer un chocolat à une plante, ben justement, je viens de le dire, j'associe le chocolat à la plante et pas l'inverse. Donc, je vais choisir le chocolat qui va s'adapter le mieux à la plante.
Et alors, moi, j'y connais rien du tout, hein, mais il me semble avoir vu autour des chocolats noirs en particulier, parfois écrit sur le papier qui emballe, tant de pourcentage de cacao, ceci, cela. Oh là, il me regarde bizarre.
Non, parce que récemment, j'ai passé 2 heures à essayer d'expliquer à un journaliste.
Ah, mais le journaliste, ça y est,
Non, mais il faisait donc un journaliste d'investigation qui voulait comprendre ce que voulait dire le pourcentage d'un point de vue légal. Donc, le pourcentage que l'on voit écrit, c'est la quantité de matière provenant de la fève. Donc, si on prend, pour faire simple, un chocolat 70%, vous avez 70% de produits qui viennent de la fève. Ça va être soit la fève elle-même, soit le beurre qui peut être extrait de la fève.
Ah oui, beurre de cacao, comme on dit.
Exactement. Oui. La fève contient en moyenne, on va dire, 50% de beurre de cacao. Donc, si vous prenez un chocolat 70%, vous avez 35% de gras, 35% de matière sèche et 30% d'autre chose.
Et autre chose, c'est du sucre.
Pas que, malheureusement.
Ah ouais, ah oui. Bon, alors, on ne parle pas des autres. Vous, c'est quoi le...
Dans mon cas, ça ne va être que du sucre.
D'accord.
Donc, il n'y a pas d'arôme superficiel, il n'y a pas de vanilline, il n'y a pas de lécithine. C'est du coup beaucoup plus complexe à travailler, puisque c'est beaucoup plus instable. Mais on est vraiment plus proche de ce produit agricole et du travail qui a été fait en amont par, par les fermiers.
Alors, je rappelle Cédric Dacosta Faro. Lucifève d'Aubrac, ça c'est votre marque. Vous êtes à retrouver dans Atout Aveyron, numéro de novembre-décembre 2021, page 40-41, belle photo, portrait, pareil, vous, blouse blanche. Et à droite, papier, et on voit une photo plaquette de chocolat que vous produisez. Et je vois là, pour revenir à ces pourcentages, il y en a un moi, où il y a écrit 70, l'autre 72, et l'autre, je vois pas, c'est flou, mais on dirait 75. Donc d'accord, donc c'est à peu près... Mais pour vous, c'est pas le plus important, parce que c'est vrai qu'on voit certains en faire un argument de ça, du taux
ça
de...
Ça ne veut rien dire. C'est un peu comme si sur du vin, on veut dire, on boit un vin qui fait 12 ou 13 degrés.
D'accord.
Ça va vous donner autant d'informations. En fait, si vraiment vous voulez vous fier à ce chiffre-là, il faut aussi regarder derrière le pourcentage de beurre, enfin de matière grasse que vous avez, et ça va vous donner, après calcul scientifique, la quantité de matière grasse, la quantité de matière sèche. Plus vous avez de matière sèche, plus ça va être un petit peu amer et aromatique. Plus vous allez avoir de matière grasse, plus ça sera rond et, on va dire, fruité, aromatisé, puis c'est la matière grasse qui va porter toutes les molécules, mais on va s'éloigner du coup de la matière première.
Très bien, je vais revenir vers vous, hein, Cédric.
Merci.
C'est la fin de cet entretien, j'ai pas fini. N'en volez pas, mais on va passer à un autre invité avec nous dans les studios retrouvés dans les pages d'Atout Aveyron ces jours-ci, cette fin d'année, puis début 2021, hein, parce que on se trouve partout sur le département, plus de 1000 points de distribution, Solange.
Oui, 1000 points de distribution, et puis ils partent tellement vite que là, sur ce dernier magazine, j'en ai plus.
Ah bon?
Bah ouais.
Donc tu vas refaire ou
quel succès?
Moi je sais, j'en ai croisé dans ma ville en faisant mes courses de Noël. Ah. Là, j'en ai croisé dans des commerces. Il y en a.
C'est bien. Ouais. Moi j'en ai plus à la boutique. D'accord. Donc j'étais obligée de me rapatrier sur l'autre.
Alors autre personnalité qu'on va découvrir ensemble et qu'on retrouve dans ces pages, mais pas en photo pour le coup là. Quentin, vous c'est pas vous non? Vous avez dit ma binette, on s'en fout. Moi je suis pas là pour montrer ma tête.
Exactement.
Hein Quentin, c'est Quentin Delcroix. Et Quentin, vous êtes le gérant, le patron, je sais pas comment on dit, le dirigeant de Ford Rhodes et puis Jaguar Land Rover Rhodes.
Ouais, tout à fait.
Concessionnaire quoi, non?
Ouais,
non,
c'est ça, c'est distributeur, ça réparateur.
Ah, réparateur, oui, c'est important ça, pour vous, évidemment. Ford Rhodes, Jaguar Land Rover Rhodes, je vais y arriver, pourtant je connais bien. C'est à même endroit, vous êtes où?
Ouais, on est situé à Bel Air, sur la route de l'aéroport, route de Decazeville.
Et bientôt, Quentin qui est un tout jeune homme, hein. Il présente très très bien. Bientôt, Quentin va s'agrandir, hein, agrandir sa société, puisque là, début 2022, en plus de ses marques, Ford, Jaguar, Land Rover,
le groupe va se développer.
Et vous allez ajouter BMW et Mini.
Ouais, tout à fait, ouais. À Rodez, le groupe rachète les affaires de Jean-François Escat à travers les marques BMW et Mini. Mmh. En Aveyron, dans le Tarn, aussi à Albi, avec l'implantation aussi de la moto à Albi.
Ah bah d'accord. Donc ça, j'ai envie de dire, et en même temps, je suis un peu surpris, j'ai envie de dire, les affaires marchent bien, mais à ma connaissance, dans l'automobile, les affaires ne marchent pas bien du tout ces deux dernières années.
Ouais, le marché est compliqué, hein, 2020 et 2021, marché compliqué. 2022, sur la partie véhicule neuf, sera aussi compliqué. La crise des semi-conducteurs oblige une restriction de production. Il y aura moins de volume, hein, de véhicules neufs livrés sur l'année prochaine. On espère un retour à la normale à partir de 2023.
Mais quand vous dites que c'est compliqué, c'est compliqué pas parce qu'il n'y a pas de gens qui veulent s'acheter des voitures neuves.
Non,
le marché. C'est compliqué parce que les usines elles fabriquent pas assez.
Ouais, tout à fait. Il y a de la demande, mais il y a peu d'offres. Et du coup, on a un phénomène de marché intéressant sur la partie véhicules d'occasion.
Parce que vous faites aussi de l'occasion ?
Ouais, bien sûr. Moins de 5 ans, moins de 100 000 km. Dans le groupe, on a presque 1000 véhicules d'occasion prêts à partir.
D'accord.
En permanence. Mm-hmm. Que vous pouvez retrouver sur notre site internet, www.groupe-grim.com.
Ok.
À travers notamment les marques qu'on distribue, hein, vous l'avez compris, ouais, Ford, Jaguar, Land Rover, BMW, ouais, et Mini.
On va y revenir, oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce que vous vendez pas en neuf, là, pour arriver à vous en sortir, c'est ce que vous vendez en occasion pour réussir à plus ou moins à limiter les dégâts.
Ouais, on peut dire ça comme ça. Il y a un beau marché de l'occasion.
Et oui,
qui explose.
C'est dynamique.
C'est ça.
Vous êtes combien à Land Rover
On est une trentaine actuellement et une vingtaine de collaborateurs sur BMW Mini à Rodez.
Vous recrutez, vous
On recrute en permanence. On a besoin de main-d'œuvre qualifiée. Notamment de techniciens, mécaniciens.
Ah mais ça vaut de l'or, hein. J'espère que vous avez les moyens.
Ouais, tout à fait.
Ouais, bon. D'accord. Ouais, et sinon des vendeurs auto, parce que ça, je sais qu'il y a plein de jeunes qui peuvent avoir envie de devenir vendeur automobile, c'est un bon métier, enfin, c'est l'image qu'on peut se faire.
Ouais, tout à fait, c'est un métier en pleine mutation aussi, parce que bon, on voit que le consommateur aujourd'hui évolue, on est sur un consommateur digital, donc il faut s'adapter. On n'a plus l'affluence qu'on a pu connaître dans les concessions automobiles. Aujourd'hui, les démarches se font en amont, sur les sites internet.
Ouais, quand on vient chez vous, c'est vraiment pour acheter, c'est voilà. Pour voir le magasin, faire les boutiques.
Comme je répète à mes équipes, 100% des clients qui passent la porte.
Ah ouais, faut pas qu'ils ressortent sans dans son voiture.
Alors, ça serait bien, en tout cas, ils sont dans un processus d'achat. Mmh. Ouais, c'est souvent l'humain, le conseiller, qui fait la différence.
Vous trouvez ?
Ouais.
C'est pas les voitures ?
Bah, si, évidemment, les voitures, les produits, et puis nous, on a ce qu'il faut en ce moment, on va y venir. Mais l'aspect humain, je pense, est super important. Mmh. Dans nos départements, on a de la proximité, on n'est pas dans des grandes villes. La relation humaine joue un rôle hyper important, en tout cas. Mais...
C'est fondamental, oui.
Bien sûr. Alors, les voitures, on va en parler, parce que moi, je j'adore les voitures, j'en avais plein, mais des petites, moi. Toutes petites. Bon, bref, on va parler de voitures. Donc, vous, Ford, Jaguar, Land Rover, BMW Mini, on ne parle pas, ça sera au mois de janvier.
Ouais, tout à fait. Hein,
bon, donc, on va commencer peut-être avec celle que vous vendez le plus en volume, j'en sais rien. En tout cas, dans ma tête, c'est Ford, parce que c'est plutôt premium, vos marques, là. Hein.
Ouais, ouais, on est sur du généraliste plus en Ford. Et Jaguar Land Rover, on est sur une marque luxueuse, ouais.
Bon, on commence par Ford. Ford, là, vous me dites si je me gourre. Ford, à ma connaissance, c'est toute une gamme dont on va parler si vous voulez. Mais Ford, la particularité des modèles, quand je vois la pub à la télé, c'est qu'ils annoncent, et ça doit être une des seules marques d'ailleurs, à ma connaissance, qui propose des véhicules d'entrée. Enfin, hop, on vous l'achète, elle est déjà équipée pour fonctionner au carburant moins cher, là, je sais plus le nom.
Ouais, un biocarburant, le flex fuel, le super éthanol.
Voilà, c'est
tout
ça.
Tout à fait. Hein. Le carburant deux fois moins cher.
Ouais, voilà. Ben non, mais attendez. Et au prix que ça coûte, on fait gaffe. Clairement. Quand on raconte deux fois moins cher, on se dit bon, c'est quand même deux fois moins cher. Parce que sinon, c'est cher.
0,66 en moyenne en France, le litre du super éthanol, qui est un biocarburant, essentiellement produit en France. À base d'extrait de betterave. Donc on est le premier producteur européen. Donc on est presque sur du made in France.
D'accord.
Et un biocarburant.
Bon. Et alors juste pour le fonctionnement, on est d'accord que c'est un seul réservoir.
Ouais, tout à fait.
Qu'on mette de l'essence normale ou du flex fuel machin.
Exactement.
Là, c'est dans le même réservoir, il y a pas deux entrées, deux
robinets. Non.
Tout un bazar.
On peut mélanger sans problème un sans-plomb 95 à du super éthanol. Il y a pas de problématique là-dessus. Mm-hmm. Pour donner un petit ordre d'idée sur un Ford Puma, qui est le petit SUV, le produit phare de la gamme Ford.
Ah oui.
Un plein au super éthanol, c'est 25 euros.
Oh, oui. Tiens d'ailleurs, question. Ça coûte moins cher à refaire le plein. On a bien compris, mais à l'achat.
Ouais, c'est ça.
À l'achat,
oui,
c'est...
Oui, Chloé, qui est intéressée
par le côté de l'eau pour moins cher. Quand c'est deux fois moins cher, on se doute qu'à l'achat, c'est peut-être pas deux fois plus cher, mais...
Ouais. Et non. En fait, aujourd'hui, les gammes hybrides sont bien plus chères que les gammes flexi-fuel. Mm-hmm. Donc, on a un Puma qui est moins cher qu'un Puma micro-hybride avec juste une petite électrification... qui se fait toute seule, donc le produit n'est pas plus cher. Et le Flex Fuel a un avantage aussi hyper intéressant là-dessus, tant pour les particuliers que pour les sociétés. On récupère à 80% la TVA en 2021, à 100% en 2022. Le coût de la carte grise, tenez-vous bien, c'est 0€, et il n'y a pas de malus.
D'accord.
Et ouais, vous parlez tout à l'heure, excusez-moi, de la gamme Ford, qui est d'usine, évidemment, Flex Fuel, mais notre autre constructeur, Jaguar Land Rover aussi, produit quelques produits, à savoir l'Evoque et le Discovery Sport, en flex fuel d'usine aussi.
Je continue sur Ford. Oui, c'est une marque de la plus grand public, quoi. C'est des voitures qui sont
tout à fait
pas chères. C'est l'équivalent, je vais pas citer d'autres marques françaises par exemple. On est sur du Renault, du Peugeot, ouais, du Citroën. On est dans ces tarifs-là.
On est dans ce positionnement, ouais, clairement.
Ouais. D'accord.
Bon, avec la gamme particulier. Et on a aussi une grande partie de notre business qui se fait sur les sociétés avec la gamme utilitaire.
Ah ouais.
Voilà.
Ah
oui. On est très complet sur la gamme utilitaire. Mmh. On peut faire des petits camions frigorifiques. On a des pour nos amis ou des besoins bien spécifiques.
Alors Ford, ouais, c'est effectivement ce petit Puma là qui marche bien à mon avis, qui marche fort, parce que c'est vrai qu'il est sympa, il est joli, donc vous vendez beaucoup. Il y a dans la gamme actuellement encore, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le...
On a le Kuga, son grand frère.
D'accord.
Là, qui a une spécificité, une super spécificité, parce que il est à la fois hybride et E85 flex fuel.
Ford, ils font toujours, ils vendaient toujours de la Fiesta, la K aussi, ça existe encore.
Non, la K plus est arrêtée.
D'accord.
La K est arrêtée. Par contre, la petite Citadine,
ça commence à la Fiesta.
Tout à fait. Et leur... Ils se retrouvent aussi en flex fuel.
Ok. Et le haut de gamme chez Ford là, en ce moment, c'est quoi?
Le haut de gamme, la nouveauté 100% électrique, c'est la Mustang Mach-E.
Ah oui.
Voilà.
Ah, oui.
La concurrente Mustang, de la Tesla. Donc jusqu'à 600 km d'autonomie sur une magnifique voiture restylée avec les lignes de la fameuse Mustang. Donc, ça lui donne un côté hyper fun.
Comment elle vaut?
À partir de 49 900€.
Alors, sinon, ouais, aussi vite fait un mot, même si ça concerne moins de monde, parce que c'est un petit peu plus premium ou cher. Enfin, voilà. Donc, vous êtes aussi concessionnaire, vous vendez aussi de la Jaguar et de la Land Rover.
Ouais.
Donc, là, 50 000, c'est vraiment. T'as les roues. c'est le prix des roues. Non, j'exagère un peu, mais.
Ouais, le ticket, c'est pas le même.
Ouais,
hein.
Ouais, c'est sûr.
Il faut vendre quelques biscuits, quoi.
Ah ouais, du biscuit, ouais, faut en vendre un paquet. Enfin, non, plein de paquets. Vraiment plein. Jaguar, en ce moment, il y a du neuf. Il y a quoi, Jaguar? Ils font quoi, là? Ah ouais, il y a une électrique aussi, là.
Bien sûr. Ouais. La stratégie de Jaguar est axée sur le 100% électrique dès 2023. Il y a déjà un SUV 100% électrique, le E-Pace.
Ah voilà.
Qui est en route depuis. Et donc, la gamme se resserre autour de 3-4 produits d'ici 2023, 100% électrique.
Et
on n'aura plus aucun véhicule thermique. D'accord.
Ouais, comme beaucoup de marques un peu haut de gamme ont décidé. Mais alors sinon, donc oui, l'E-Pace, moi je vois à peu près. Et sinon là, actuellement, il y a quoi comme Jaguar?
On a le E-Pace, l'équivalent de l'Evoque en Jaguar, en gabarit. Et on a le fameux F-Pace, le SUV, le fort SUV de la gamme Jaguar en 2016.
D'accord, donc c'est beaucoup format SUV Jaguar en ce moment. Alors, si je comprends. Il n'y a plus les grandes belles berlines des années 90,
en fait,
ou les coupés cabriolets.
Si, on a la fameuse F-Type, la fameuse S-Type.
La sort
évidemment. Mais la demande aujourd'hui, elle est sur du 4x4, du SUV.
Ouais.
Du coup, les constructeurs s'adaptent.
Un mot de Land Rover. Land Rover, on dirait que ça ne change pas, mais en fait, ça change tout le temps. Même si ça ressemble tout le temps un peu à la même chose. Hein. Donc là, Land Rover, il y a combien de modèles? Ouais, Evoque, gros succès, carton.
Ouais, Evoque, Velar, Range Sport, Range Rover. Et récemment, on a eu le nouveau Defender.
Ah ouais.
Et le produit iconique, quand même, de la marque.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Un produit utilitaire à la base. Bon, qui est revenu bodybuildé aux normes d'aujourd'hui. Et qui est quand même le produit emblématique de la marque. Dans le dernier James Bond, il était mis en avant et tout. Bon, c'est.
Ça revient à la mode en plus.
Ouais, clairement.
C'est sympa.
Land Rover est un produit de mode.
Ouais. Non, mais carrément, pour le coup, à Paris, il y a vraiment beaucoup de gens Land Rover, mais que des vieux. Ça revient vraiment avec James Bond notamment, et cet esprit. Il y a Kendall Jenner aussi qui est sur Instagram, qui en a quelques-uns, donc ça revient vraiment.
Celui que vous entendez, c'est Hugo Bouard. On va se retourner vers lui dans quelques minutes. Bon, il s'y connaît en mode. Lui, c'est les vêtements, mais enfin, il s'y connaît en mode. Hein, j'ai compris même à travers.
En tout cas, il a de bon goût. Ah,
ouais. J'aime bien les voitures, les vieilles voitures.
Ouais. Juste là, le Land Rover, l'entrée de gamme, c'était le Freelander. Ça existe toujours, ça?
Non, c'est plus le Freelander. C'est le Discovery Sport maintenant.
Ouais, d'accord. Ouais. Et donc, c'est quoi le tarif là d'entrée, ticket d'entrée?
Un peu moins de 50 000€.
Peut-être pas ma dernière question, mais la dernière pour le moment, Quentin. Autre sujet qui peut fâcher, enfin dont on entend parler parfois en ce moment, et c'est lié à la crise des semi-conducteurs sans doute là. C'est si moi je viens vous voir là pour vous acheter une voiture, paf.
Yes.
Quand est-ce avec que je suis plaisir. Quand est... ouais bah oui. Mais par contre le plaisir pour moi d'être
une
au volant.
Une Jaguar de préférence.
Mais le plaisir pour moi d'être au volant, c'est dans combien de temps?
Alors je vais vous parler pour la partie Ford, puis après pour la partie Land Rover. Pour la partie Ford. Notre constructeur a privilégié certains produits, ceux qu'on a mis en avant sur les véhicules particuliers. Le Ford Puma et le Ford Kuga qui ont des délais franchement hyper raisonnables.
Genre
4 mois d'accord. Pour un Ford Puma ou un Ford Kuga. Dans le contexte actuel, franchement, oui, oui. C'est chouette.
D'accord. Et pour les autres marques, Land Rover et Jaguar, c'est plus
long? Pour la partie Jaguar Land Rover, c'est un peu plus long. Ouais. Le premium, les délais sont un peu plus rallongés. On est
sur du 6 mois ou plus
encore?
Sur du
double, ouais.
Ouais. Ah, le double, ouais. Ouais, mais moi j'ai entendu 6 mois pour beaucoup de marques françaises ou pas d'ailleurs, délai de livraison normal 6 mois. Ouais.
En fait, c'est pas facile aujourd'hui à annoncer des délais qui vont être tenus. C'est la problématique des constructeurs parce que il n'y a pas de visibilité.
Et bah, j'espère que vous en aurez dans les prochains mois, mais je suis pas certain, hein, Quentin. Enfin, vous devez le savoir mieux que moi.
On va encore passer une année un petit peu compliquée en termes de. Avant de retrouver des stocks comme on a eu l'habitude d'avoir, il nous faudra un petit peu de temps. Mais bon, on s'adapte. À cette nouvelle contrainte.
Enfin, en tout cas, vous gardez le moral, vous.
Ben évidemment.
Vous développez en plus.
On se développe, on se concentre et,
ben, c'est bien.
Et on est fiers de représenter nos marques.
Je reviendrai vers vous à la fin de cette émission. Quentin Delcro, donc Ford Rodez, Jaguar, Land Rover Rodez aussi, et bientôt BMW et Mini. Donc Hugo, vous l'avez entendu, il en a réussi à en placer une là tout à l'heure. Bravo Hugo.
Ah, merci. Bravo, merci.
C'est pas facile. Donc...
J'essaye.
Ah, non, c'est bien.
Je suis plus jeune, c'est pour ça.
Bah tiens, quel âge pendant qu'on y est?
J'ai 22 ans.
Ouais, ça va, tu peux faire le malin.
Je vais sur le 23 là en janvier. Là.
Ok. Hugo Bouard, donc vous, votre truc, c'est la mode.
C'est ça.
Le vêtement.
Plus, ouais, plus particulièrement le vêtement.
Ah, pas que.
J'aime bien, je travaille tout dans la direction artistique, donc j'aime bien lier tout l'univers d'une marque ou d'un musicien, ça dépend.
Ah, oula.
Je peux tout faire.
Donc vous avez créé votre marque qui s'appelle Superbe SPB.
C'est ça, hein, exactement.
Marque de mode, de vêtements, on va détailler un petit peu. Je précise aussi que vous êtes de Millau.
Oui.
Millavoie,
depuis toujours.
Ok. Et cette marque-là, vous l'avez créée il y a combien de temps?
Je l'ai créée en 2017, quand je sortais du bac, parce que j'ai pris une année de césure, parce que j'étais danseur professionnel.
J'en ai même pris 3. Ah, d'accord. D'accord.
Et donc, du coup, pendant un an, j'ai dansé dans une compagnie où j'ai pu voyager un peu partout, et ça m'a donné j'ai eu le temps pour réfléchir à faire une marque, et je me suis lancé là-dedans, après, du coup, cet été-là, en faisant une campagne de crowdfunding. Sur Ulule.
Ouais, d'accord. Voilà. Donc, qui a fonctionné, qui vous a donné.
On avait un objectif de 3 500 € sur trentaine de jours. On a fait à peu près 5 000 €. Donc, ça a très bien marché. Et du coup, ça m'a propulsé après à faire beaucoup plus de choses et à évoluer, bien sûr.
Alors, cette marque, Superbe SPB, je le rappelle, signé Hugo Bouard. Ouais, quand j'ai signé Hugo Bouard, c'est que vous?
C'est. Alors, je.
Je dis pas que vous êtes en train de tricoter les machins. Mais
non, je suis parti. Techniquement, je suis tout seul dans la marque. Après, ouais. j'ai tout un groupe de personnes qui m'aident à côté de moi, notamment ma copine. Des potes aussi, c'est vraiment un tout. Je dirais pas que je suis tout seul, c'est d'accord. Un collectif.
Alors ces vêtements, parlons-en là, cette mode, parce que bon, la radio on voit rien, donc bon déjà j'imagine qu'on peut tout retrouver en long, en large, en travers.
Sur Instagram. Facebook, ouais. TikTok et aussi sur le site internet, bien d'accord. Sûr.
Et là l'adresse, enfin le qu'est-ce qu'il faut taper pour vous
retrouver? Superbe SPB.
D'accord.
Superbe parce que vous êtes beau et voilà. Tout
ça. Tu m'auras pas comme ça. Superbe, plus loin, SPB, les
exactement,
trois lettres.
Exactement, exactement. Ça marchera tout seul, vous allez le retrouver.
Très bien. Alors, ces vêtements-là, avant qu'on aille voir, parce que moi, je peux pas, j'ai les mains prises. qu'est-ce que c'est comme déjà le style? Bon, quand je vous vois, on n'est pas costume trois pièces et queue de pie.
Étonnamment, je m'habille beaucoup en costume, mais là, pas aujourd'hui.
Ah non, là, pas aujourd'hui.
J'aime bien mixer les deux noms. Ouais. Je suis sur une mode access streetwear, mais sur l'évolution, streetwear haut de gamme, donc en mixant toutes sortes de choses. Et de base, c'est un vestiaire assez décontracté. Mm-hmm. Donc, je propose des hoodies, donc c'est des pulls à capuche,
ouais.
Des t-shirts, des casquettes et aussi des jeans upcyclés. Dans la forme dans laquelle je travaille, c'est pour que la personne, elle se ressente en fait, que ce soit une émotion, un confort dans le vêtement. Donc, quand une fille, elle porte un pull, c'est un peu la coupe boyfriend. C'est un peu le pull de son petit ami.
Voilà, ça, c'est très à la mode, ça.
Exactement.
Après, pas ton pull, il est trop grand, mais je suis trop bien dedans.
Exactement.
Pas dans le canapé.
On le met une fois et on y reste tout l'hiver dedans.
Bah, oui, oh là là. Et donc, oui, streetwear, c'est pas sport, c'est pas des vêtements.
Non, il y a sportswear et streetwear. C'est deux choses différentes.
D'accord.
Et streetwear, c'est un terme qui était plus hip-hop, on va dire, dans les années 90. Mmh. Et ces derniers temps, ces 10 dernières années, ça s'est intégré dans le luxe, notamment grâce à Kim Jones ou Virgil Abloh. C'est des noms que peut-être vous connaissez pas, mais c'est des DA, des directeurs artistiques chez Louis Vuitton ou chez Dior actuellement. Et ils ont réussi à amener cet univers dans le luxe. Et donc maintenant, on est vraiment sur une mode hybride où on peut très bien mixer entre un pantalon à pinces, un sweat à capuche et autre chose.
C'est le cas sur ta belle photo qui est dans le magazine.
Oui, qui est bien d'ailleurs, c'est vrai, on l'avait pas dit. Hugo Bouard et la marque
34-35.
Hein, à retrouver.
Je suis très décontracté sur la photo.
Classique, carrément allongé dans une
petite dino.
Une dino. Côté haut de gamme. Oui, pour revenir à ces vêtements, superbe SPB, c'est quoi? C'est des matières le côté haut de gamme, c'est des matières particulières?
Alors, je travaille avec des usines de manufacture au Portugal ou en Espagne. Ouais. J'essaye de me rapprocher petit à petit de la France, mais pour l'instant, pour le prix, on va rester sur Portugal ou l'Espagne. Et donc, on est avec des produits vraiment 100% coton, qui respectent aussi des chartes d'éco-responsabilité. Donc, sans vous dire les noms, on a une démarche éthique et responsable. Que j'ai pas forcément envie de mettre trop en avant. Parce que pour moi, dans la mode, dans ma conception de la mode éthique,
ça va de soi.
C'est un détail, on peut le savoir sur le site, mais c'est pas mon fer de lance marketing.
C'est le style, vous, votre.
Moi, c'est l'émotion.
L'émotion,
c'est vraiment, comme le dit l'article, c'est la mode comme manifeste artistique. C'est vraiment, je raconte une histoire dans un univers précis qu'on pourra en parler après, si vous voulez.
Ouais, même peut-être maintenant. Mais alors, avant, combien vous avez de produits, vous?
Alors, ça dépend. Moi, je crée en fonction de mes envies et de comment je me sens. Là, actuellement, je sais que sur le site, j'en ai 5-6. J'en ai 2 qui vont arriver très, très prochainement. Peut-être que dans 3 mois, j'en aurai 0 et que je vais relancer 10 produits d'un coup.
Et les 5-6 actuellement, donc c'est le sweat à capuche, vous m'avez
dit? J'ai 2-3 sweats à capuche ils sont très bien pour l'hiver. Parfait. Ouais. Maintenant, là, pour la saison. Et j'ai une nouvelle casquette. Qui est incroyable, je la porte actuellement, vous pouvez pas la voir, je suis déçu.
Moi je la vois.
Et après je fais des jeans upcyclés aussi, donc je chine des vieux jeans Levi's vintage, et après je fais la sérigraphie du coup moi-même dans mon atelier à Millau. Donc d'accord. À savoir que tous les pulls sont imprimés par mes mains chez ma grand-mère.
Bravo. Et on remercie votre grand-mère.
Je la remercie.
Mais alors, quand vous dites imprimé, c'est-à-dire que la plupart de vos vêtements c'est pas de l'uni telle ou telle couleur? Sur chacun, il y a des motifs?
Exactement, tous les motifs. Donc, je dessine tout ça. Mon processus de création, il est assez facile. Ça peut venir de films, de musique. Et aussi, je passe beaucoup de temps sur les réseaux, sur Pinterest ou Instagram, où j'essaye de capturer des images. Et après, je dessine sur l'iPad Pro. Je choisis aussi mes couleurs en fonction de l'émotion. C'est pas seulement le dessin, les couleurs aussi ont beaucoup de choses à raconter.
Et alors, justement, les couleurs, c'est quoi?
Alors là, par exemple, le dernier qui a très bien marché, c'est un pull gris avec un imprimé rouge et rose. C'est une vraie tendance en ce moment sur des créateurs comme Jacques Mus, un créateur marseillais. Mmh. Et on a un bon mix des couleurs qui marche très bien et qui est unisexe aussi. Ou sinon, j'ai sorti aussi un pull pour l'hiver qui est couleur
chocolat. Ouais, c'est celui qu'on voit dans Atout Aveyron.
Exactement, celui qu'on voit sur Atout Aveyron. C'est ma copine qui le porte.
Ah ouais, d'accord.
Elle est super belle dedans.
Oui, oui. Bon, bah alors, le chocolat, je suis centré sur le pull. Hein, mais
le chocolat, on sait à qui tu pourras l'offrir à Noël.
Ouais, c'est ça. Une marque, en général, on la reconnaît de loin, de l'extérieur, grâce à un petit logo ou quelque chose qu'on est content d'avoir sur son pull, sur son sweat, sur son machin. Vous, à Superbe SPB, il y a de ça ou faut le savoir pour savoir que c'est du Superbe SPB?
C'est une stratégie que j'ai prise dès le début, où je change en fait le logo en fonction de mes humeurs aussi.
Ah bah ça doit être pratique ça pour se retrouver, faut suivre.
Alors c'est clairement quelque chose qu'il faut pas faire techniquement en termes de communication.
Dans les écoles,
on vous apprend pas ça.
Ouais.
Mais je reste sur une base, donc là j'ai des petits stickers que je donnerai à l'équipe du coup après. Et donc je reste sur une base où le logo est plus ou moins le même. Et après j'agrémente.
J'ai des problèmes de. Je suis allé chez le.
J'agrémente avec des petites fleurs.
Ah, des petites fleurs, d'accord.
Smiley en fonction des envies, des messages.
Il y a quand même la marque écrite sur SPB.
Mais toujours sur tous les produits, la marque est écrite. Mais elle est plus ou moins discrète.
Très bien. Merci. Bon, alors, c'est très joli, tout à fait. C'est fabriqué chez votre grand-mère, stylisé par vous-même, etc. Hugo Bouard. C'est dans le niveau haut de gamme. Alors là, quand vous dites haut de gamme, moi, je commence à avoir peur.
Non, c'est on va dire que c'est une entrée de haut de gamme pour comparer au niveau de prix. Le hoodie, il commence à 120 euros.
Donc sweat à capuche, hein.
Exactement. Ouais. C'est le prix pour avoir un produit qui a une démarche éthique derrière, de qualité, 100% coton, etc. Il y a un gros grammage aussi pour vous comparer un hoodie, un sweat à capuche dans le commerce, normalement, il est à 250 grammes.
Alors, grammage, c'est-à-dire la densité,
Exactement. Voilà. Densité du coton. Ouais. Donc, c'est 250 grammes. Moi, mes hoodies sont à 500 grammes. Donc, c'est le double.
Alors, on doit être trop bien.
Donc, on est quelque chose de lourd et quelque chose de bien. Le principe, c'est ça. C'est qu'on se sente bien dans le vêtement et qu'on veuille faire passer un message aussi.
Et quelque chose qui dure?
Exactement.
Ouais.
Exactement. Mmh. Qui dure et qui puisse se transformer aussi. Dans le principe de l'upcycling que je fais avec les jeans, c'est aussi un principe que je peux faire aussi avec mes t-shirts, mes pulls ou pourquoi pas avoir une technique de revalorisation d'anciens produits qu'on ne porte plus.
Alors cette marque, vous l'avez lancée il y a quelques années. Hugo, ça marche bien ou pas?
Mais ça marche bien. Moi, je suis étudiant.
Ah toujours. Ouais, d'accord.
Donc, okay. je suis en master en direction artistique à Paris.
D'accord.
Dans une école de mode. Et auparavant, j'étais à Lyon aussi. Et c'est vrai que ça a toujours été un super projet parce que ça m'a aidé dans mes cours. Et ça m'a aussi amené dans des endroits incroyables. Oui. J'ai pu être maître de conférence à HEC Montréal.
Ils s'en sont parmi. Hein.
Ils se rappellent
encore du.
Non, mais du coup, j'ai pu voyager à Montréal, j'ai pu faire des défilés. Et,
c'est bien.
C'est une expérience vraiment intéressante. Et là, je sors d'un magasin éphémère à Paris. J'étais ce week-end, qui a très bien marché aussi pour Noël. Et donc, c'est vrai que c'est en tant qu'étudiant, c'est une super expérience. Je pense garder ça à côté parce que c'est mon terrain de jeu artistique. Comme je disais, je crée dans un univers que j'ai monté de toutes pièces qui s'appelle Endless Summer, traduisé été sans fin.
Ah, si seulement.
Exactement. Et pour moi, la phrase qui résume Endless Summer, c'est un amour d'été censé durer un été, sauf si celui-ci est sans fin, alors c'est un amour pour la vie.
Eh ben, j'espère que la copine a compris parce que là, moi, il faudra me le répéter 3-4 fois.
Hein. En gros, le principe, c'est que ça vient d'une passion pour les amours d'été.
Oui.
C'est vrai que pas forcément de les avoir vécus, mais c'est surtout de les voir, en fait, de voir comment on peut être le vrai nous pendant 3 semaines et d'être avec une personne. Et au final, ça se coupe de suite parce qu'on rentre chez nous. Et si l'été est sans fin, alors cet amour, il est pour la vie.
Oh là 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 là.
Mais dis donc, c'est trop romantique.
Ouais, ouais. Mais moi, je serais la copine quand même que je me dirais là, faut que je fasse gaffe parce que son discours, il est prêt. Ouais. Bref, bon.
Ça sent la bague là. Hein.
Hugo, vos vêtements, votre ligne.
Oui.
Où est-ce qu'on peut se l'acheter? Pour le voir, on en a parlé, mais sinon, l'acheter.
Alors, aujourd'hui, ça se passe seulement sur le site internet.
Ah bah, c'est déjà pas mal.
Exactement. Ouais. Je suis en train de rechercher du coup des revendeurs, que ce soit en Aveyron plus particulièrement ou après dans toute la France. J'ai quelques contacts encore, mais il faut. C'est vrai qu'avec le Covid, j'ai été confronté à plusieurs petits problèmes. Je devais de base intégrer les Galeries Lafayette à Lyon et ça s'est été annulé. Coupure de budget oblige.
C'est pas grave, t'auras Ecoboutique à Rodez.
Exactement, mais alors moi je suis carrément pour.
Le site là pour acheter les vêtements, c'est quoi là?
C'est superbe-spb.com et je vous conseille, même si le public, d'aller sur TikTok ou Instagram. Bien sûr sur TikTok parce que c'est vraiment une nouvelle plateforme où on peut vraiment s'exprimer comme on veut et on peut voir vraiment les dessous de la marque. Maintenant les gens veulent, je les appelle même plus mes clients, ils font vraiment partie intégrante du processus de création. Il faut vraiment les inclure au plus près de la création, que ce soit du début à la fin, et ils veulent vraiment être intégrés et à la fois voir comment ça se passe, comment on fait une commande, comment je crée, comment j'imprime. Le principe d'imprimer en sérigraphie, c'est un réel artisanat, un savoir-faire que je développe sur le cuir et sur d'autres matières. Du coup, Mio Ville de Cuir, c'est vrai que j'essaye d'exploiter au maximum du coup, ces chutes de cuir et j'ai un projet en cours d'essayer de revaloriser ces chutes de cuir qu'on jette normalement. C'est vrai que c'est un vrai savoir-faire et pour les jeunes, de faire passer ce message, les gens ils peuvent se lancer. Moi, mon message, c'est vraiment que tout le monde se lance.
Ouais.
Lancez-vous parce que c'est le meilleur projet que vous pouvez avoir.
Eh ben, bravo Hugo.
Bravo, merci.
Hugo, c'est bien de voir un jeune comme ça, bon, à Véronais, entre parenthèses, mais un jeune qui fait des choses, qui se bouge, qui crée, qui a plein d'envie et de projets. Bravo Hugo, donc à retrouver dans À tout Aveyron, numéro de novembre-décembre, numéro 28, page 34-35, je ne sais plus.
C'est ça.
Sinon, vous allez tout feuilleter parce qu'il y a vraiment plein de rendez-vous très intéressants à retrouver tout au long de ces pages.
Oui.
Je reviens parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission quand même. À un moment donné, il va falloir
passer
à autre chose.
C'est dommage, c'était bien.
Je reviens vers Chloé.
Oui.
Chloé Gonzalez. On rappelle, Chloé, vous faites des biscuits.
Oui.
Votre entreprise, petite entreprise encore, mais beaucoup de biscuits, ça s'appelle Le Temps des Papilles.
Oui, c'est ça.
Hein ? Donc, vous m'avez dit 6 produits différents.
Oui, 6 recettes différentes.
6 recettes, voilà.
Je pense quand même à 2 nouvelles recettes.
Ah, dans votre tête ou...
2 nouvelles recettes, qui sont dans ma tête, mais en gros, il ne me manque plus que des essais à faire. Donc,
donc ça, c'est les perspectives pour 2022, des recettes supplémentaires.
Oui, des recettes supplémentaires. Et puis, bon, j'espère... J'espère arriver à produire autant que...
Bah pas que... Ford, vous n'y arriverez pas toute seule.
Ah, à voir, à voir.
Ouais, vous espérez pouvoir développer pour...
Ouais, pouvoir développer un peu plus. J'ai un début qui est quand même assez prometteur. Je pensais pas en fait avoir un tel engouement quand même de départ. Hein. C'est assez impressionnant. Je freine presque pour démarcher en fait parce que je dirais pas que j'arrive pas à suivre hein, parce que quand je démarche, le but c'est d'arriver justement à satisfaire la demande, mais. Mais pour le moment, je peux pas faire plus que ce que je produis. Ouais, que ce que je produis, donc voilà.
Du coup, quand même, vos biscuits, où est-ce qu'on peut les acheter ?
Donc, on peut les acheter donc principalement là, quand même, je dirais, donc dans l'Aveyron, sur mon site internet.
Ah, c'est le Temps des Papilles, le site internet, ou c'est autre
chose ? Le Temps des Papilles, ouais. Le Temps des Papilles, www.letemps-des-papilles.fr. Et ensuite, principalement dans des boutiques en Aveyron. Donc, dans le coin, il y a la boutique Aveyron. Place de la mairie. Et ensuite, sur Nocelles aussi, puisque quand même je suis sur Nocelles, ouais. Donc dans quatre boutiques sur Nocelles. Ensuite, jusqu'à Bozoul, l'épicerie du Trou. Mmh. Également, une boutique éphémère là à Espalion, chez Violaine et Jérôme Luce. À Cassagne, dans une petite épicerie qui propose que des produits ou des créateurs aveyronnais, qui est vraiment très très chouette comme boutique. Je trouve ça très bien que des gens comme ça développent de plus en plus des lieux où ils mettent en avant les producteurs et les créateurs aveyronnais. C'est vraiment
c'est très intéressant,
très très chouette. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont passés, je pense, dans tout Aveyron.
Oui, j'y fais attention, je veille.
Ouais. C'est riche en Aveyron, je trouve, pour ça.
Tiens, puisque vous me parlez des 6 recettes, donc ces biscuits, on peut les retrouver sous format de sachet, hein, vous m'avez dit.
De sachet, mais je suis en train de voir avec ma graphiste, d'ailleurs, qui a fait un très beau travail, hein, je trouve, en termes d'étiquette, enfin de graphisme, ouais. Sur l'étiquette. Hein. Donc on est en train de voir là sur un emballage en carton. Parce que je passe mes soirées à coller des étiquettes. Donc du coup, il me faut que je puisse gagner du temps sur ça. Donc ça sera une boîte en carton pré-imprimée, donc toujours dans le même esprit quand même de mon identité visuelle, mais où du coup, je gagnerai un peu de temps sur l'emballage et la mise en sachet.
Pour ces sachets, là, dernière question, après je vous embête plus, Chloé. Ces sachets, c'est par goût, par texture, ou on peut faire il y a des trucs où c'est florilège.
Alors, c'est plutôt par goût et par texture, mais quand même, il y a un petit florilège là. Du coup, pour les fêtes, j'ai préparé un assortiment de Noël, bon, qui a été victime de son succès. Oui. Voilà, j'étais partie, on va donner des chiffres, peut-être qu'il y en a certains qui trouveront que c'est pas beaucoup, mais j'étais partie sur 250 boîtes de Noël. J'avais commandé une boîte assez sympa, noire mat, avec une belle étiquette noire et dorée, donc visuellement, elle a énormément plu, gustativement aussi, je pense. Et du coup, en fait, mes 250 boîtes sont parties en 4 jours.
Ouais. Ah oui, en 4 jours.
Donc, en fait, voilà. Donc, je suis en train de reproduire là à nouveau cette semaine pour en proposer juste avant les fêtes. Et du coup, ça sera par contre dans un sachet parce que un peu crise oblige aussi. J'ai pas pu avoir les boîtes en carton. Enfin, que j'aurais peut-être, mais hors délai. Enfin, donc, du coup, ça sera. Je vais faire un réassort, mais en sachet, du coup, ouais. Et donc là, on a 6 recettes différentes. Toujours des textures différentes, des goûts différents, avec à peu près 45 biscuits quand même dans le sachet.
Ah ouais, ouais.
Alors c'est des petites, un peu dans l'esprit d'une milliardise en fait.
Non, d'une
donc
bouchée.
Des petites bouchées, ouais.
D'accord. Ça coûte combien, tiens, je vous ai pas demandé.
Alors sur la gamme classique, on part sur un sachet salé à 3,80€. Ensuite, j'ai les sablés citron et orange qui sont à 4,30€. Les sablés bretons et les cookies au chocolat qui sont à 4,95€. Et l'assortiment de Noël qui est à 9,50€.
C'est noté. Cédric Dacosta Faro, vous, c'est le chocolat, votre truc, la fabrication au chocolat à partir des fèves. Vous nous avez expliqué, vous faites tout ça chez vous, du côté de Castelnau de Mandaille. La marque, c'est Lucifève d'Aubrac. Hein.
Oui.
Jusque-ci, j'ai pas dit de bêtises. Avec vous, je fais attention.
C'est tout bon. C'est tout bon.
D'accord. Là, de la même façon que... Chloé l'a évoqué pour les fêtes. C'est vrai que le chocolat, il y a deux moments dans l'année où ça se vend. Noël et Pâques. Vous, vu que vous faites de la tablette, c'est différent.
Alors, moi, je suis un peu moins sujet à saisonnalité.
Ouais.
Dès le début, j'ai voulu aussi m'adresser aux professionnels de l'hôtellerie, de la pâtisserie.
Ah oui.
Justement pour lisser un petit peu ces effets-là. il y a quand même l'effet Noël qui est bien présent, puisque là, je reçois de plus en plus de demandes de dernière minute. Il me faudrait 60 tablettes, 80 tablettes. Donc, c'est gratifiant d'un côté, mais ça met un vrai coup de pression là, pour fabriquer, puisque c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais fabriquer du chocolat prend du temps.
Ah si, j'ai bien noté. J'ai compris qu'il fallait que ça repose.
Alors, la fabrication en elle-même prend quand même entre 3 et 4 jours minimum avant de mouler. Et mouler le chocolat, pour moi, ça va être 2-3 jours supplémentaires. Donc,
une semaine pour une tablette.
Pour, je fais environ 300 tablettes et 7-8 kilos de pastilles.
Mais alors tout ça, c'est très très bien parce que c'est qualité, on a compris, passion, parfait. Mais ça me fait peur sur le tarif de la tablette.
Effectivement, on est plus cher qu'un premier prix industriel.
Mais genre, ouais, ça, ouais, mais combien?
Les premières tablettes démarrent à 6,50 pour 90 grammes.
Oui, non, bah, ça va.
Et on monte jusqu'à 8 euros. Pour la tablette, après les pastilles, on a différents contenants. Donc, soit des petits pots avec 10 pastilles dedans pour partager, pour découvrir. C'est vraiment le pot découverte. Là, on va être à moins de 4 euros.
Ouais.
Un peu plus pour partager, donc 25 pastilles, on est à 4,90. Et après, on va partir sur des pots 125 grammes. Là, c'est beaucoup plus pour pâtisser et on est à 13-14 euros.
Où est-ce qu'on peut acheter vos chocolats?
Sur Rodez, ça va être la éco-boutique.
Ah bah, rue Corbière, à côté de la poste, à côté de la radio aussi.
J'ai fait ma livraison
bien.
Avant de venir à cette émission. Son voisin, la table Froment, qui l'utilise également en pâtisserie. Donc, vous pouvez non seulement retrouver les tablettes qu'il utilise, mais aussi voir ce qu'on peut en faire. C'est quand même assez intéressant. Puis après, ça va être des épiceries, que ce soit sur Bozoul, sur Espalion, Saint-Côme, en attendant d'en trouver et de sortir peut-être un petit peu du territoire.
Et vous ne faites pas de la vente en ligne?
La vente en ligne aussi via le site internet lucifeves.fr. Donc, L-U-C-I-F-E-V-E-S. Donc voilà, sur le site internet, ça arrive petit à petit.
Merci beaucoup Cédric Dacosta-Faro d'être venu parmi nous présenter vos produits et votre passion. Dernier intervenant aujourd'hui avec nous, c'était Quentin Delcros, lui aussi il est passionné. Mais lui, son truc c'est les voitures. Hein, il est, on rappelle, dirigeant de Ford Rodez, Jaguar et Land Rover Rodez aussi, et bientôt BMW Mini Rodez. Viens là pour juste terminer sur les voitures. Les nouveautés 2022 dans vos marques, Quentin, va y en avoir.
Nouveauté, déjà cette année, nos constructeurs vont se concentrer sur la production de
celle qui est en retard.
La nouveauté dans l'auto, vous voyez bien la transition, on est actuellement sur une transition hybride, ça sera l'électrique. Donc l'électrification du parc arrive à grands pas.
D'accord.
D'ici 2-3 ans maximum, les constructeurs vont mettre 100% de leurs moyens de recherche et de développement sur l'électrique.
D'accord, ouais, donc pas de nouveaux modèles, mais une électrification.
Si, bien sûr, des nouveaux modèles. On aura sûrement une petite citadine 100% électrique chez Ford d'ici peu de temps, peut-être pas l'année prochaine, mais j'espère en 2023.
Vos concessions, je sais pas si c'est comme ça que vous dites, mais les sites où vous vendez vos voitures, on l'a dit, c'est Bel Air.
Oui, on a la concession Ford Rodez et Jaguar Land Rover à Bel Air.
Ouais.
En Ford, on a aussi le territoire Aveyron, Cantal, Lozère, donc on a une concession à Aurillac. J'en ai la responsabilité, et des agences à Mende, à Millau, à Villefranche,
on peut pas vous louper, quoi.
Donc on est présent pour nos clients sur notre grand et beau vaste territoire.
Et on rappelle, donc on a parlé beaucoup de véhicules neufs, mais vous faites aussi du véhicule d'occasion.
Évidemment.
Et occasion récente. Hein.
Voilà, je vous invite vraiment à faire un petit tour sur notre site internet.
Alors c'est quoi les sites internet?
C'est www.group-grim.com.
Grim, comment?
Grim,
G-R-I-M,
comme les comptes,
un seul M.
Deuxième.
D'accord.
Classique.
Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Bonne continuation. Et à vos équipes, merci aussi beaucoup Solange d'être venu.
Oui, et moi je peux en profiter pour remercier aussi Élodie Lachâtre, qui est un de nouveaux photographes qui nous a rejoints. Et c'est grâce à elle que nous avons aujourd'hui Chloé et Cédric.
C'est vrai, ouais.
Et puis ensuite, je voudrais vraiment te remercier toi, David, parce que tu nous aides beaucoup. On a fait beaucoup d'animations ces jours-ci.
Ah bah oui, la semaine dernière, le défilé de Gaëlle, j'ai fait un reportage.
On a toutes les équipes et toutes les personnes. Il y a 67 artisans dans EcoBoutique, donc je tiens à les remercier, ils sont formidables. Et je voudrais qu'on n'oublie pas du tout la culture. Il ne faut pas oublier les amphithéâtres, l'amphithéâtre à Rodez, le cinéma. Tous ces gens qui permettent aujourd'hui d'aller voir des bons films, d'aller voir des spectacles, de passer de bons moments pour Noël. Il faut penser à ça comme idée cadeau.
T'as raison. Mais alors, c'est quoi le dernier bon spectacle ou film que t'as vu, toi?
Oh là là.
Ah, c'est là que
Suprême.
Ah, moi, NTM. Je préfère Superman, mais bon. Ah.
Non, j'étais voir le film sur
NTM. Sur
NTM. Il fallait voir Spider-Man aussi. Il est incroyable.
Si je vais au spectacle, je l'ai fait toute l'année.
Oh là là là. Bah écoute, merci à toi, parce que grâce à toi, la France de la culture continue de vivre.
Oui.
Bon. Juste Éco-Boutique, le magasin, la boutique rue Corbière, on retrouve les gens que l'on trouve aussi dans les pages d'Atout Aveyron, du bimestriel gratuit, je précise. Oui. Vous êtes ouvert pendant les fêtes, là, faut pas déconner sur ce coup-là.
On est ouvert tout le temps.
Ah, d'accord.
On n'a pas de jour de fermeture, mon ami David.
Oui, bah heureusement. Parce que c'est le moment de faire des. Il y a des idées cadeaux.
Oui, tout à fait.
Okay.
Et il y en a des idées cadeaux dans la boutique dans Atout Aveyron.
Aussi. Hein, merci beaucoup à tous d'être venus dans nos studios. Bonne continuation.
Merci
et passez bonne fête.
Merci beaucoup.
David.
Bonne fête.
Bonne fête.